foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Mino Rantriamanantena. Merci Mino d'être venu aujourd'hui. Vous êtes pasteur de l'Église réformée de France. J'espère que je dis bien.
L'Église protestante unie voilà. De France, oui.
Oui, l'Église protestante unie de France. Vous êtes aussi un des responsables du comité interministériel de Toulouse. Père de famille, 3 enfants. Et aujourd'hui, en cette deuxième semaine de l'année, non seulement vous avez accepté mon invitation, mais vous êtes venu nous apporter un cadeau.
Oui, enfin, alors le cadeau en question, s'il s'agit d'en parler, eh bien c'est d'abord bonjour à toutes et à tous. Il s'agit d'un chant composé spécialement pour cette période de l'Avent 2020, dans un contexte difficile. Et c'est un chant composé pour les enfants de l'école biblique, les enfants du catéchisme, pour que l'on pense un peu à ce que Dieu nous donne malgré les ténèbres, l'obscurité, malgré les grisailles, malgré les doutes, les incertitudes, malgré le fait qu'on n'arrive pas à maîtriser le temps et que cela nous angoisse. Et donc dans ce contexte, Dieu nous offre le cadeau de son Fils, car Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils pour qu'on croie en lui et qu'on vive de sa vie et que nul ne périsse.
Alors, la peur du virus, la peur de la pandémie, tout ça, ça vaut rien.
La grâce de Dieu, en tout cas, dans la manière dont le compositeur de ce chant, enfin, c'est moi qui l'ai composé, pardon, pense cette grâce de Dieu comme quelque chose qui ne supprime pas forcément la peur, qui ne supprime pas l'angoisse, mais qui donne l'espérance, une espérance suffisamment forte pour surmonter, pour vivre malgré tous les dangers.
Mon âme exalte le Seigneur,
oui.
Je rends grâce. Tout de suite, alors, pasteur, responsable avec d'autres de l'œcuménisme et du dialogue entre les confessions, vous avez apporté une image, un tableau qui est sur le site de Radio Présence, qui est Luther à la Diète de Worms. Nous avons des blessures, c'est pas seulement les dangers aujourd'hui, de la peur, de la souffrance, mais Dieu fait grâce, ça veut dire il nous justifie, il nous rend juste, il nous libère, il nous délivre.
Mm-hmm. Oui, justement, cette déclaration gratuite de la part de Dieu, dans sa justice, il nous déclare juste, et bien cela nous permet de ne pas... ne plus être culpabilisé par ce que nous sommes, par ce que nous pensons, par nos erreurs, nos manquements, nos égarements. Cela nous donne le courage d'oser prendre le risque d'affirmer nos convictions, étant donné que le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, en tout cas pour moi et pour d'autres théologiens comme Thomas Römer, mais surtout Oscar Kuhlmann, l'Esprit du Christ pour moi est un esprit de diversité et non d'uniformité de langage, de théologie, de ce qu'on peut appeler vérité intellectuelle, étant donné que la seule vérité qui réforme toutes nos pensées intellectuelles, c'est le Christ lui-même qui s'est proposé comme parole de Dieu. Mais c'est la rencontre avec lui qui vient bousculer nos traditions, nos convictions, nos langages. Et il se trouve que oui, cette diète de Worms s'est située à un moment clé de l'histoire de l'Europe, de l'Occident. Copernic avec la découverte de l'héliocentrisme. Il y a aussi la découverte de l'imprimerie qui bouscule toute la culture occidentale. Et je dirais que la pensée de Luther n'est pas forcément... on va dire l'excommunication de Luther en janvier de 1521 n'était pas une grosse blessure. Enfin, pour lui, c'était juste qu'il avait conscience de ce bouleversement intellectuel, c'est-à-dire de cette traduction intellectuelle de la foi, confiance dans la fidélité, dans la grâce de Dieu. eh bien, il a essayé d'annoncer cette conviction en plus ou à côté de la conviction romaine, et ça a entraîné son excommunication. Et donc, bon, il a essayé de faire avec sans forcément devenir, sans être en colère vis-à-vis de Rome. Enfin, en tout cas, bon, il est vrai qu'il a réagi un peu dans, par exemple, les thèses, les 95 thèses sur les indulgences. Il a beaucoup réagi en 1517.
À Wittenberg.
Donc ça, c'est... Voilà, ce sont des réactions plus intellectuelles que de conviction. Il continuait à penser que, en tout cas moi personnellement, je continue à penser que il peut y exister plusieurs convictions intellectuelles, traductions intellectuelles sous forme de langage théologique de la même confiance dans la fidélité de la grâce de Dieu.
On pourrait dire depuis Vatican II ou depuis 1999 qu'il y a eu de gros progrès dans le dialogue et dans l'exégèse. Mais on peut dire aussi, peut-être avec certains papes, qu'il y a des formes de dialogue qui ne peuvent pas être possibles lorsqu'on parle du sacerdoce universel, où le prêtre, nous sommes... alors c'est Jésus qui aurait dit, vous êtes des apôtres, le sacerdoce de Melchisédek. Bon, nous n'allons pas faire de théologie, parce que tout ça, ça n'intéresse plus les jeunes. Et puis entre-temps, il y a eu Nietzsche, au-delà du bien et du mal, il y a eu les maîtres du soupçon comme Karl Marx, et les conflits de classe, et il y a eu Freud et l'inconscient. Alors, votre parole, Germino, elle est inadaptée. Et puis peut-être, je pourrais dire, pour ceux qui n'ont pas remarqué que votre nom, il n'est pas très franco-français. Alors, y a-t-il une théologie africaine, une théologie asiatique ? Beaucoup, beaucoup de questions.
Oui, il est vrai, je reprends ce que vous venez de dire par rapport à la théologie. Il est vrai que le dialogue a eu beaucoup de succès dans les 2 dizaines d'années, on va dire, ou 3 dizaines d'années après Vatican II. On y croyait beaucoup, je m'en souviens dans le début de mon ministère.
Et vous y croyez encore aujourd'hui?
Donc j'étais à Angers à l'époque. Maintenant, je relativise beaucoup le dialogue interreligieux, interconfessionnel, je veux dire, interconvictionnel. Je continue à le pratiquer parce que c'est important. C'est important de parler des choses concernant l'histoire, concernant la théologie, c'est très important. On va d'ailleurs en faire un peu pendant la semaine de prière pour l'unité en janvier 2021. Mais il faut plus pour les jeunes aujourd'hui, il en faut plus. On n'est plus dans cette période rationnelle, intellectuelle qui est partie du siècle des Lumières et qui a eu encore beaucoup de succès au XXe siècle. Au XXIe siècle, j'ai l'impression que les jeunes sont plus dans le vivre ensemble, dans un œcuménisme plus spirituel, dans la spiritualité, dans quelque chose de plus peut-être émotionnel, comme le dirait Michel Maffezoli.
Mouvement charismatique, avec le renouveau, avec d'autres formes de chants et de prières.
Il est vrai qu'en tant que théologien, c'est parfois un peu difficile de l'accepter, mais c'est comme ça.
Vous allez d'ailleurs nous en parler dans la deuxième partie, puisque nous sommes dans cette semaine de l'unité des chrétiens, où tous les jours, d'abord il y a des prières par les groupes bibliques œcuméniques le matin, mais il y a aussi des manifestations dans les différents lieux de culte, et entre autres, jeudi, des rencontres des pasteurs, des prêtres, des diacres et tous ceux qui travaillent dans l'œcuménisme. Eh bien écoutez, vous nous avez apporté une prière. Dieu donne sa lumière pour qu'on trouve nos repères. C'est le cadeau que vous nous avez apporté. Merci, Mino.
Car Dieu m'a sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Un cadeau de Dieu unique et précieux, ça ne vient pas de moi. Car Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils, pour qu'on croie en lui et vive de sa vie, et que nul ne périsse. Nous comptons à ses yeux, son cadeau est gracieux, le cadeau d'un père. Nous comptons à ses yeux. donne sa lumière pour qu'on trouve nos repères. Un cadeau de Dieu unique et précieux qui guide et qui éclaire. Car Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils pour qu'on croie en lui et vive de sa vie et que nul ne périsse.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Mino Randriamanantena, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie à Toulouse. Vous êtes aussi un des responsables du comité interconfessionnel de Toulouse et père de famille. Originaire de Madagascar.
Oui, en effet, je suis né à Madagascar. Je suis arrivé à Toulouse en 1983 pour faire des études de météorologie, de climatologie. Et puis, j'ai fait un doctorat de physique et chimie de l'environnement à l'Institut national polytechnique de Toulouse. Et puis, voilà, donc à ce moment-là, je connaissais bien, j'avais le temps de fréquenter la communauté malgache de Toulouse. Mais actuellement, de retour à Toulouse en 2015 avec Emmanuel, qui est pasteur, mon épouse et nos trois enfants.
Elle est responsable du groupe, des groupes bibliques œcuméniques. Elle voilà. coordonne le travail cette année sur les Actes des Apôtres.
Voilà, c'est ça.
On lui dit merci.
Et donc, oui, avec nos trois enfants, on nous a envoyés à Toulouse pour prendre en charge cette église locale de Toulouse.
Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie dans l'Église protestante unie ?
C'est pas vraiment une hiérarchie, c'est une organisation, c'est-à-dire que les décisions d'affectation se prennent de manière collégiale. L'autorité est collégiale et donc c'est une instance collégiale qui prend les décisions en définitive. Et c'est cette instance qui nous a proposé Toulouse, on a accepté, l'église locale de Toulouse nous a accepté, on en est reconnaissant, parce que ça a permis à nos enfants, nos trois enfants qui arrivent maintenant en âge universitaire, de profiter amplement de cette ville universitaire de Toulouse. Nous sommes très chargés, si bien que je n'ai même plus le temps maintenant de fréquenter l'église ou la communauté malgache de Toulouse.
Mais se rassemblent lors d'obsèques, je me rappelle, j'ai un souvenir extrêmement émouvant au temple, lorsque le temple est rempli parce qu'il y a un deuil, parce que la communauté se soude autour de quelqu'un qui est parti retrouver les ancêtres. Mais alors, il y a une théologie européenne ou française par rapport à la théologie d'où vous êtes né ? Où l'inculturation se fait, vous aviez parlé de la mondialisation, vous avez parlé du climat qui est en danger.
Oui, il se trouve que j'ai été envoyé par l'Église protestante unie de France comme professeur de théologie systématique et de sciences de religion de 2011 à 2015 dans une faculté de théologie luthérienne malgache à Fianarantsoa, qui est une ville très, très catholique, avec Monseigneur Barbarin qui a séjourné. Oui, dans cette période universitaire de ma vie, à la suite du Christ, j'ai redécouvert un peu l'anthropologie malgache, la culture malgache, dans laquelle s'exprime sous forme de langage, sous forme de vision du monde très différente de la vision rationnelle cartésienne occidentale de l'évangile qui vient s'exprimer là-dedans. Est-ce qu'il s'agit d'une inculturation? Nous, en théologie protestante, on parle plutôt de contextualisation, c'est-à-dire que l'évangile s'exprime selon le contexte, dans le langage du contexte à la suite de Paul Ricoeur et d'autres philosophes du langage. On estime que voilà, l'évangile a besoin de s'incarner ou de s'exprimer, de se rendre visible à travers les mots d'une culture, notamment Paul Tillich qui dit que la religion est le noyau de la culture et la culture est l'enveloppe de la religion, quel que soit le contexte. Et donc, dans ce sens, il me semble que la vision du monde malgache que j'ai découverte avec mes lunettes de théologien pendant cette période de 2011 à 2015, cette vision du monde est complètement différente de celle occidentale, si bien que, voilà, on ne peut pas universaliser une vision du monde, on ne peut pas universaliser, enfin c'est un peu ce que j'ai découvert à ce moment-là, on ne peut pas universaliser un dogme, une théologie, une vérité intellectuelle, on ne peut pas, face à une telle disparité de vision du monde. En revanche, la rencontre avec le Christ est universelle et cette rencontre s'incarne. Alors il y a l'image du pot de fleurs que les Occidentaux sont venus apporter dans des pays comme Madagascar ou d'autres, hein, en Afrique ou en Amérique latine ou ailleurs, en Asie. Un pot de fleurs avec une fleur donc, plantée dans une terre récoltée en Occident, dans la culture occidentale du 19e siècle, 18e siècle, 19e siècle, et qui, le pot de fleurs a été transporté dans une terre différente. Et très souvent, le piège consiste pour les missionnaires de garder la fleur dans le pot au lieu de déplanter la fleur et de planter la fleur dans la terre locale, dans le contexte local, dans le contexte indigène ou autochtone, peu importe le mot.
Si elle perd ses racines, la fleur risque de dépérir. Alors, on sait les dangers que certains... voit quand l'évêque de Rome qu'on dit que c'est aux commissions épiscopales locales de prendre des décisions, mais alors il va y avoir un éclatement de cette église et la tunique du Christ va être déchirée.
Mmh. Oui, ça c'est effectivement le piège. Alors la conception ici est... Et c'est toujours la diversité de l'action de l'Esprit du Christ. Hein. La première conception consiste à dire le plus important c'est la terre, le pot. Dans lequel la fleur, l'évangile est plantée. La peur que si on libère la fleur de ce pot-là, il y ait des racines ou des radicelles qui se perdent et que la fleur retombe. L'autre conception consiste à dire la terre n'importe où est création de Dieu et donc peu importe la terre, peu importe les petites radicelles qui peuvent disparaître, la fleur reprendra vie. Et c'est cette espérance-là qui l'emporte, en tout cas dans la contextualisation, la conception missionnaire de contextualisation telle que beaucoup de protestants, théologiens protestants la conçoivent.
On voit le cadeau du Père. Nous voilà. Comptons à ses yeux ce que vous nous avez apporté. Mais je pense que c'est pas... on pourrait parler encore pendant des heures avec... vous êtes professeur de théologie, vous l'avez dit. Si on revoit la conversion de Paul, qui croyait que la loi, obéir à la loi, ça suffisait, et tout d'un coup, il perd ses repères, il devient aveugle. Et on voit la différence lorsque l'on lit la lettre aux Hébreux. Par rapport à l'Église qui est la bonne nouvelle qui est annoncée à Jérusalem ou qui est annoncée on va dire à Rome et à Athènes, et il y a des lettres chaque fois situées dans des églises particulières. Donc votre communauté à Toulouse, eh bien vous avez entendu Dieu vous parler et vous donner la force, l'esprit de parler à ces communautés qui sont transplantés à Toulouse, les migrants.
Oui, oui, oui. Si vous voulez que je parle un peu comment je vis ma spiritualité à l'écoute de cette parole de Dieu, très souvent je l'entends par des lectures de livres théologiques, des lectures de textes bibliques, d'auteurs bibliques, notamment la lettre aux Hébreux. Donc ces lectures questionnent... Ces lectures questionnent sans cesse mes convictions intellectuelles. Ça me déplace notamment, ça me montre en tout cas à travers les disparités des théologies bibliques, des auteurs bibliques, que par exemple la lettre aux Hébreux questionne ma conception de la scène, enfin de la christologie aussi, le rôle du Christ.
Jésus s'est fait obéissant jusqu'à la mort. pour nous sauver aujourd'hui. Mmh. Et c'est une notion du Père qui est quand même très cruelle, qui veut que son fils meure en rançon pour les péchés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un agneau, l'agneau pascal qui va être envoyé dans le désert?
Oui, donc dans l'église locale de Toulouse, je pense que le rôle du pasteur consiste essentiellement à questionner toute interprétation des textes, d'interprétation de chaque vie spirituelle, questionner comme la lettre aux Hébreux questionne notre contestation vis-à-vis de la théologie sacrificielle,
oui,
qui était en vogue depuis Freud, depuis contestation qui était tout à fait justifiée, mais qui visiblement en tout cas... et un peu remise en question par cette diversité que la lettre aux Hébreux propose. Oui, l'esprit du Christ est un esprit de diversité. On voit cette pluralité théologique, cette pluralité de vérité intellectuelle dans la Bible.
Nous allons aussi l'expérimenter cette semaine, puisque jeudi, il y a la rencontre entre les prêtres, les pasteurs et les diacres qui sont chargés de l'œcuménisme. Et vous savez aussi que tous les ans, le Vendredi Saint, nous rappelons la passion de Jésus autour de l'évêque local, Monseigneur Le Gall, à l'église. Que des pasteurs viennent à la cathédrale, c'est pas neutre. Mais en même temps, nous avons des lieux qui sont les temples et des lieux d'évangélisation qui sont la rue, avec la charité.
C'est vrai. Et c'est parfois plus facile de se retrouver, de manifester visiblement l'unité que Dieu nous offre à travers le Christ, dans son union avec son Fils, rendre visible cette unité par l'action sur le terrain, l'action sociale, l'action humanitaire, l'action caritative, ou peut-être aussi par le souci vis-à-vis de l'environnement. Il se trouve que ce qui va nous unir entre prêtres et pasteurs et diacres et aumôniers, ça va être comment chacun a vécu, ou chaque communauté, ou chaque lieu d'action, lieu d'évangélisation, comment chacun a vécu cette période de pandémie. Et comment on se projette, qu'est-ce que ça peut changer dans notre ministère, dans notre vision de la foi, de la relation à Dieu et de l'Église. Et ça peut être très intéressant. C'est le genre de dialogue qui me semble très enrichissant, en tout cas en tant que pasteur, entendre un peu comment les autres, avec leur cohérence théologique, parce qu'il y a une diversité de cohérence. Le critère finalement qui permet de juger une vérité intellectuelle, théologique, c'est sa cohérence, et comment chacun avec sa cohérence arrive à survivre, à surmonter une telle crise, une telle adversité qui est telle que celle que nous sommes en train de vivre ou que nous avons vécue pour certains.
Nous avons besoin d'être sauvés. Il faut reconnaître que nous ne sommes pas tout puissants et nous avons besoin aussi de partager cette espérance dans la charité. Eh bien, oui, vous nous avez apporté ce cadeau de Dieu unique et précieux. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de nous. Nous le recevons avec cette grâce, ce merci que nous pouvons dire. Et merci aussi pour tout ce qui va être vécu aujourd'hui ou dans la semaine de l'unité des chrétiens.
Oui, merci. Merci à Dieu, merci à nos différentes églises, merci aussi à vous qui animez cette émission.
Et à Christophe qui a fait l'enregistrement.
Merci.